nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Monsieur François Vesmaël, qui est professeur au département de physique de l'Université de Montréal, où il enseigne essentiellement l'astronomie, étant de formation astrophysicien. Sa formation s'était effectuée à la fois au Québec et aux États-Unis. Monsieur Vesmaël, merci d'être venu sur les rives de la Seine et d'avoir quitté le Québec. Pas tout à fait pour nous, mais vous étiez à Paris, vous avez bien voulu venir nous rendre visite.
C'est ça, j'ai passé les derniers mois à Paris.
Alors, si je vous reçois aujourd'hui, c'est en lien avec cette journée des dictionnaires et cette semaine des dictionnaires au Québec. Vous avez participé aux deux premières journées qui ont été lancées à l'initiative de Madame Monique Cormier, professeure au département linguistique et traduction à l'Université de Montréal. Et elle vous avait demandé, une chose qui m'a paru surprenante et intéressante, d'examiner comment les dictionnaires traitent de la science en général. Et je pense que vous vous êtes penché sur votre discipline en particulier, c'est bien cela?
Oui, c'est cela. C'est-à-dire que nous avons, dans la première série de conférences, nous nous sommes concentrés sur le dictionnaire Robert. Et pour la deuxième journée des dictionnaires, la mission a été de regarder comment la science était représentée dans le dictionnaire Larousse.
Alors, ce n'est pas tout à fait pareil, le Robert et le Larousse.
Non, ce sont deux dictionnaires qui sont bien différents. Le Robert est un dictionnaire culturel. Le Larousse est un dictionnaire à vocation encyclopédique. Alors, on s'attend en particulier à ce que la science soit représentée de façon beaucoup plus en vue, si vous voulez, dans le Larousse.
En effet, donc dans le dictionnaire Larousse, alors dans le petit Larousse ou le grand Larousse,
Larousse. Le petit Larousse de tous les jours,
oui, celui c'est ça, qu'on
le
utilise
quotidien.
Le quotidien. Que peut-on dire alors de la manière dont la science est représentée et comment avez-vous opéré pour faire cette étude?
Alors la mission était vraiment de comparer le contenu scientifique du dictionnaire Larousse, du petit Larousse, entre les versions de 1955 et 2005 à peu près. Donc voir comment la représentation de la science dans Larousse avait changé, avait évolué au cours des 50 dernières années.
Oui, parce que si vous étiez remonté à 1905, ça faisait peut-être le 100e anniversaire du Larousse, mais... 1905, la physique, votre discipline était, on ne peut pas dire embryonnaire, mais enfin naissante.
L'intérêt était moindre. La physique moderne est vraiment née à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Donc, il était important d'avoir une bonne représentation scientifique quand même. Et 1905 était vraiment un peu trop tôt pour ce faire.
Alors, comment avez-vous procédé pour comparer? Donc, d'abord, il faut se procurer un petit Larousse des années 55.
C'est ça, la première étape, donc avoir un dictionnaire de 1955 et un dictionnaire plus récent. Et ensuite, il faut faire une comparaison entre les dictionnaires. Alors, la façon de procéder que nous avons adoptée en est une où on se définit un certain nombre de critères. Il y avait quatre grands axes à cette étude qui consistaient en l'amélioration des définitions, c'est-à-dire la façon dont les définitions qui étaient déjà présentes en 1955 ou il y a 50 ans, avait évolué, avait changé au cours des 50 dernières années. Un autre aspect était l'aspect de l'évolution des connaissances scientifiques, comment cette évolution a été représentée, donc par l'inclusion, par exemple, de néologismes, par le changement dans les définitions, c'est-à-dire les définitions représentant l'état des connaissances, les connaissances ayant évolué dans cette période-là, comment est-ce que ce changement a été représenté? Et un troisième aspect, c'était la multiplication des rubriques scientifiques associées à un mot particulier.
François Vesmaël, vous avez évidemment choisi votre discipline, la physique et l'astrophysique et l'astronomie un peu aussi, plutôt la physique en fait. Vous avez choisi des mots alors en relation avec cette discipline. Et à partir des travaux d'Einstein, je crois.
Oui, c'est-à-dire que pour la première partie, l'amélioration des définitions, il s'agissait de choisir un certain nombre de mots et on a pris des mots qui étaient également en relation avec un autre anniversaire qui était célébré, qui était l'année internationale de la physique et les articles, cette année faste d'Einstein en 1905. Alors, nous avons choisi des mots qui étaient reliés aux travaux qu'Einstein avait accompli cette année-là pour servir de base d'étude, si vous voulez, à cette étude comparative.
Alors, quel mot, par exemple?
Il y avait le mouvement brownien. Donc, un des projets que Einstein a complété cette année-là, c'est une étude du mouvement brownien. Alors, nous avons comparé les définitions de ce mot-là, photoélectrique aussi, puisqu'il avait fait un travail sur l'effet photoélectrique. Nous avons étudié les définitions du mot photoélectrique dans les deux versions, et finalement, relativité, qui est un mot relativement vaste.
Attaché à Einstein, évidemment.
Attaché à Einstein, encore une fois. Il s'agissait donc de comparer et de juger de l'amélioration, puisqu'amélioration il y a, de la qualité des définitions de ces mots.
Alors l'amélioration, elle porte sur c'est plus précis, les mots sont mieux expliqués, comment ça s'est amélioré justement ?
Je dirais que les définitions sont plus précises ou plus techniques si vous voulez. Mmh. Souvent elles sont plus longues parce que on a besoin de développer un peu plus la définition. Cependant, ça n'est pas une règle absolue. Et on retrouve des définitions de certains mots qui sont beaucoup plus concises et qui sont beaucoup plus précises dans la concision. Alors, exactitude n'est pas antinomique de concision. Les deux choses peuvent aller de pair.
Alors là, c'était donc le premier axe de votre travail, l'amélioration des définitions que vous avez pu noter en comparant ces deux dictionnaires. Le second axe, le deuxième axe plutôt, c'est l'évolution des connaissances scientifiques.
C'est ça. Alors là aussi, il fallait choisir certains mots. Et un des mots, par exemple, qui a été choisi, c'était le mot « comète ». Les comètes étaient connues en 1955, évidemment. Elles sont aussi représentées ou discutées dans le Larousse le plus récent. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans notre connaissance des comètes. Alors l'idée était de voir comment cette explosion des connaissances était reflétée dans la définition d'un mot. Alors dans le cas de comète, c'est assez intéressant. La définition de 1955, nous disons dans le texte, est une définition qui aurait plu à Halley, dont le nom est associé à la comète de Halley. C'est-à-dire que la définition était très descriptive. Elle décrivait tout simplement ce qu'on savait des comètes telles qu'elles étaient observées à cette époque-là. Et la définition de 2005 est beaucoup plus moderne, c'est-à-dire que depuis, on a évidemment, par exemple, des missions spatiales qui sont allées examiner des comètes de près. On a développé un modèle de la structure physique des comètes, et donc la définition est tout simplement beaucoup plus étoffée. Elle reflète très bien l'amélioration des connaissances de ces objets. C'est la même chose avec le mot ozone. Ozone était un autre des mots qui avait été choisi. Et évidemment, vous pouvez imaginer qu'entre 1955 et 2005, il y a eu, associé à ce mot-là, une explosion des connaissances. Et on trouve des choses, évidemment, comme la couche d'ozone et
ces choses-là
qui sont discutées, avec des photographies prises par satellite, ce qui était tout à fait inconcevable.
Oui.
À l'époque.
Mais est-ce que ce n'est pas justement cette progression des connaissances n'est pas seulement due au fait que la technique pour les observer est beaucoup plus développée,
les appareils sont
extraordinairement puissants.
Oui, dans un cas, c'était l'ère pré-Spoutnik et maintenant on a des photos du trou dans la couche d'ozone prise par des satellites. Alors oui, ça reflète cette explosion des connaissances au cours des 50 dernières années.
Donc, en fait, il y a donc des mots qui ont changé de contenu. On ne traitait pas le mot comète en 55 comme on le traite aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi d'autres changements qu'on peut noter dans cette évolution des connaissances scientifiques ?
Oui, il y a d'autres mots. Par exemple, le mot noyau en étain que nous discutons, qui en 1955 avait 5 sens. C'est-à-dire qu'on parlait de noyau en physique, par exemple, en biologie végétale, en biologie cellulaire, en astronomie, etc. Et aujourd'hui, quand on regarde la définition du mot noyau dans la version la plus récente du Larousse, on s'aperçoit qu'il y a maintenant 11 sens associés à ce
mot. 11
disciplines différentes
qui
sont représentées, électrotechnique, géophysique, métallurgie, météorologie, anatomie, algèbre. Alors vous voyez que
tout le monde a son noyau.
C'est ça, tout le monde a son noyau. Alors ça, c'est une autre façon d'explorer l'évolution des connaissances. Et la dernière fait appel au néologisme, donc à la construction de nouveaux mots. Alors là, nous nous sommes intéressés aux mots qui reflètent véritablement ce qu'on appelle une échelle, n'est-ce pas, comme les mots qui commencent par micro, nano, pico, des mots qui reflètent l'échelle à laquelle on travaille. Micro, donc c'est la millionième partie de quelque chose, nano, la milliardième partie, etc.
Et pico,
c'est la billionième, donc la mille milliardième partie de quelque chose.
Alors en 55, qu'est-ce qu'on trouve ?
On trouve beaucoup de micros et c'est à peu près tout, pas grand-chose d'autre. Le mot pico, ou le préfixe pico n'apparaît pas
au
Larousse.
Oui.
Et alors qu'en 2005, les mots en micro ont à peu près disparu parce que ça n'est plus une échelle qui est très, 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 très intéressante. Et on trouve beaucoup de néologismes qui commencent par le préfixe « nano », qui sont tout à fait d'actualité aujourd'hui, nanotechnologie, nanotube, etc. Et aujourd'hui, apparaît le préfixe « picot » dans le dictionnaire. Mais il n'y a pas de néologisme qui est associé à « picot », mais c'est quelque chose qui va venir assurément.
Si l'on en croit ce que Michel Serres de l'Académie française disait récemment, les scientifiques sont grands créateurs de mots. Ils inventent beaucoup de mots parce qu'ils ont besoin, chaque fois qu'une connaissance est nouvelle, de la nommer, évidemment. Donc, ils sont finalement créateurs de néologismes.
Oui, on voit déjà, on notait déjà que le Larousse, quand il est sorti, était en retard sur la technologie puisqu'il y avait beaucoup de néologismes déjà créés qui n'avaient pas été intégrés au Larousse et qui le seront peut-être dans des éditions futures.
Alors, je vais juste dire, quand même rappeler, parce qu'on a dû le dire tout à l'heure, on aurait dû le dire quand vous avez évoqué Einstein, que Einstein était associé étranger à l'Académie des sciences, où il avait été élu le 26 juin 1933, et il est mort en 1955, justement au moment où vous avez commencé à vous intéresser aux éditions du dictionnaire François Vesmaël. Je voudrais rappeler que l'intégralité de votre communication, celle que vous avez faite, elle est publiée déjà dans un ouvrage qui s'appelle « Les dictionnaires Larousse, Genèse et Évolution ». C'est un ouvrage qui est paru aux presses de l'Université de Montréal. Et je voudrais enfin vous poser une dernière question. Combien de temps vous a-t-il fallu pour comparer ces deux éditions du dictionnaire et regarder comment la science y était traitée? C'est un gros travail.
C'est un travail qui a pris quelques mois. C'est-à-dire que la première partie consistait vraiment à s'établir une liste de critères qui allaient être utilisés. Et ensuite, bon, il faut passer au travers des dictionnaires et des rubriques intéressantes. Alors, on parle de quelques mois de travail.
Alors vous êtes prêt à recommencer l'expérience avec d'autres sortes de dictionnaires? Par exemple, un dictionnaire québécois, parce que je sais qu'il va en sortir bientôt.
Oui, c'est possible, oui, c'est possible.
Ça serait intéressant.
Oui, tout à fait.
Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de ce travail que vous avez effectué. François Vesmaël, vous êtes astrophysicien à l'université et professeur au département de physique de l'Université de Montréal. Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie.